Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Yves-Marie Bercé, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, est historien à la fois de la grande histoire politique traditionnelle et aussi des opinions populaires, des révoltes, des complots, des conjurations, des moments inachevés de l'histoire. En fait, c'est un historien des représentations non seulement des phénomènes, mais de leurs reflets. Vous êtes à l'écoute, Yves-Marie Bercé, aussi bien du bon sens populaire que de ces rumeurs qui en disent si long sur la société du moment. Bonjour Yves-Marie Bercé.
Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, il est vrai que je m'intéresse non seulement au jeu des institutions, mais aussi à l'ensemble de leurs répercussions, de la manière dont elles sont comprises par les assujettis, leur transformation, leur évolution. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'étudier une institution comme un manuel de droit, mais de la voir vivre dans la société. En ce sens, on fait non pas une histoire politique, mais une histoire culturelle du politique.
Oui, c'est ce que vous me disiez hors antenne, que les anglo-saxons appelaient pas ça l'histoire des mentalités, parce que c'est fini cette expression-là, mais eux avaient une autre expression.
Bien, depuis les années 50-60, les anglo-saxons disent effectivement, les Américains disent généralement anthropologie culturelle.
Avant d'évoquer les complots et les conjurations sous le règne d'Henri IV, et d'évoquer aussi la maîtrise étonnante du roi des opinions populaires, parlons de la rumeur. Yves-Marie Bercé, que nous révèle sur les peurs officielles ou officieuses, que nous révèlent ces rumeurs qui courent dans le royaume? Quelles sont les espérances, les angoisses, les engagements, les partis pris qui les animent? Quelles sont leurs causes, parfois ponctuelles et volatiles? Et quelles sont les réactions des autorités?
Alors, effectivement, il y a peur et aussi espérance. Qu'en appellera-t-on rumeur? Il s'agit de les opposer au circuit d'information, de circulation des nouvelles, de circulation officielle en quelque sorte. Aujourd'hui, mettons, nous avons tout un arsenal de médias qui nous informent sur les moindres événements survenus à l'autre extrémité de la planète. À la fin du XVIe siècle, on était informé par
les
publications officielles. Par exemple, un édit, une ordonnance royale est imprimée, elle est affichée dans les auditoires de justice ou sur des poteaux de halle, ou bien si elle a une importance immédiate, on va même la lire en chaire à l'issue du prône. Le curé paroissial va en donner lecture.
Et puis, les placards.
Alors, des placards, ça peut être toute forme de version imprimée, de faits divers, d'éléments de polémique au jour le jour. Dans cette période troublée sur les 30 ou 40 années de guerre de religion, on peut penser, bien sûr, qu'il y a une multiplicité d'opinions qui sont émises et qui circulent dans des placards imprimés ou dans ce qu'on appelle des nouvelles à la main, dans des éphémères, des canards qui ont simplement une ou deux pages et qui sont vendues pour quelques deniers sur un quai ou dans un lieu de halle ou de foire, par exemple.
Et les colporteurs, alors, participaient à cette rumeur?
Alors, les colporteurs sont effectivement les gens qui vendent pour quelques liards ou un denier, déjà une somme un peu plus importante, ces feuilles volantes. Mais il est bien évident qu'elles ne peuvent être destinées qu'à ceux qui lisent. À la fin du XVIe siècle, la capacité de lire est tout de même réservée aux marchands ou à des gens qui fréquentent justement les foires ou les marchés. Et puis, on peut imaginer qu'il y a, pas seulement imaginer, mais savoir qu'il y a une des lectures collectives au cabaret ou une diffusion orale qui accompagne à la veillée. Je ne pense pas que les gens qui y aient, on n'imagine pas, c'est plutôt une veillée paysanne. À ce moment-là, je ne pense pas que ce soit des gens qui soient lettrés. Mais il faut plutôt imaginer que dans un cabaret ou, encore une fois, dans une taverne où se réunissent des marchands, une diffusion orale multipliée qui prend le relais de l'information écrite proprement dite.
Oui, mais les rumeurs touchaient aussi les gens illettrés, puisque c'était souvent un peu irrationnel.
Les rumeurs touchent tout le monde. Je crois qu'avoir l'idée de l'opposition qu'on fait assez classiquement entre une culture populaire et une culture aristocratique qui serait séparée par une sorte de précipice, d'abîme d'apprentissage. Je crois qu'elle est en grande partie trompeuse parce que les comptes en pointe, l'ensemble des gens d'une société, quel que soit leur niveau de fortune ou d'éducation, participent un peu des mêmes croyances, des mêmes espérances, des mêmes superstitions. Bien sûr, ils peuvent être plus ou moins bien informés, plus ou moins bien situés dans cette chaîne de connaissances, mais je crois que le fait d'être contemporain, quel que soit le niveau social ou politique, entraîne une communauté, une sorte de consensus spirituel.
Qu'est-ce que vous vouliez dire par les moments inachevés de l'histoire qui sont si intéressants finalement pour nous les historiens ?
Alors, il est certain que nous écrivons constamment l'histoire après le fait accompli. C'est-à-dire que nous savons quelle est l'issue des crises, des événements, et c'est fort de cette connaissance qui, on dira qu'elle est impertinente, que nous nous permettons de retracer et de trouver une chaîne de causalité, d'explication qui rende compte des événements achevés. Or, les gens qui les vivaient à l'époque, eux, n'avaient pas bien entendu cette prescience. Et eux, ils étaient en face, comme nous sommes aujourd'hui en face de notre avenir, perplexes. Et si vous interrogiez aujourd'hui dans la rue un certain nombre de nos contemporains sur ce qui va arriver demain, ou dans un an en France ou dans le monde, vous auriez une multitude d'avis qui, j'en suis sûr, s'avéreraient faux, complètement faux, dans un an. Alors, je pense que pour autant, ces opinions ont leur importance parce qu'elles témoignent d'un certain état d'idées, d'attentes à un moment donné. Elles participent, même si elles vont s'avérer fausses, de ce moment d'histoire que nous vivons. Nos ignorances, en quelque sorte, font partie, bien entendu, de l'histoire. Simplement, après, on va les gommer à mesure que le temps passe et qu'on sera expert sur ce qui s'est passé. On va gommer les ignorances, les incertitudes et les opinions absurdes que l'on avait pu émettre. On les effacera de notre mémoire. Alors, je crois que la bonne posture de l'historien est d'essayer de se mettre dans le fil des contemporains et de suivre l'histoire comme elle va, c'est-à-dire comme un fleuve, et non pas de la remonter, mais de descendre les événements en même temps que les contemporains.
Et le fait de s'attacher à un trait que l'on pense devoir avoir de l'avenir sur le plan historique, c'est une méthode heuristique.
Oui, mais attendez, à l'époque, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas, à moins d'être Nostradamus, qui est effectivement un homme de cette époque, ce qui va advenir. Donc, vos hypothèses sont certainement fausses. Ces hypothèses ont leur intérêt par elles-mêmes, mais elles n'ont pas, bien sûr, d'emprise sur le cours réel des événements. Ce que je veux dire, enfin, je ne sais pas, je m'exprime peut-être pas suffisamment clairement, c'est que dans un moment critique donné d'histoire, quel qu'il soit, il y a une multitude de possibilités, de virtualités qui sont ouvertes et qu'ensuite, l'histoire en avançant va les ramener à une seule, celle qui sera l'histoire réellement, effectivement réalisée.
Oui, je comprends
et
bien.
Et toutes ces histoires inachevées, virtuelles, elles auront existé.
Oui, et une idée fausse est un fait vrai.
Une idée fausse est un fait vrai, voilà. J'aime beaucoup, je l'ai toujours répété cela en faisant des enseignements d'histoire à la Sorbonne, qu'une idée fausse est un fait vrai, c'est-à-dire qu'une idée fausse est même prodigieusement instructive sur l'époque qui l'a émise, les gens qui l'ont proférée, et ce qu'elle suppose de croyances, de conséquences. On a, par exemple, on peut trouver un autre exemple, c'est les faux documents qui ont été forgés, mettons, pour, à un moment donné, pour induire en erreur la postérité, qui étaient dans la critique historique, les débuts de la critique historique positiviste du 18e, du 19e siècle, ont rejeté ce type de documents comme parfaitement trompeurs. Or, un faux construit par des moines du 13e siècle, mettons, établissant des privilèges de leur abbaye 300 ans plus tôt, a beaucoup d'intérêt parce qu'il nous enseigne ce que pensaient ces gens, ce qu'ils voulaient construire, oui. Quelles images ils avaient de leur proche passé pour essayer de le reconstruire, de le retransformer.
Pour faire un raccourci, ce sont des mensonges historiques, des mensonges qui nous servent.
Et que, loin de les rejeter, nous devons au contraire
les
étudier avec un grand plaisir.
Henri IV était un homme qui avait des qualités de toutes sortes, mais nous allons nous atteler à voir son génie secret pour correspondre aux attentes populaires et correspondre justement aux images légendaires que ce peuple français aimait manipuler. Comment s'y est-il pris ? Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir correspondre ?
Mais je crois que dans le cas d'Henri IV, on a suffisamment de témoignages directs de contemporains, de mémorialistes, qui nous rapportent des bons mots, des aphorismes, des réflexions plaisantes, judicieuses de la part de Henri IV. Il y a peu de personnages de l'histoire de France qui aient cette spontanéité et cet aspect de, on dira vulgairement, de bout en train. Alors je crois que la légende de celui de Henri IV, forgée dans la suite des temps, a amplifié encore cette bonhomie volontaire, mais ce n'est pas non sans juste titre, dans la mesure où je crois qu'il a joué ce personnage-là de réconciliateur,
de
pacifiant, en pleine conscience. Et que c'est en ce sens qu'il appartient à la petite catégorie des grands hommes, des personnages qui ont su correspondre à une attente de leur époque, à se couler, si vous voulez, dans le type de personnage, dans le type d'attitude que l'on attendait d'eux.
C'est un génie politique à sa
manière.
C'est
un génie politique, voilà. Et c'est certainement un personnage charismatique, un génie politique. Alors, il s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile, a choisi de l'interpréter d'une certaine manière, et il a joué ce rôle très consciemment. On le voit bien en face des courtisans, en face des ambassadeurs étrangers, en face de ses conseillers. Ses réparties, ses réflexions sont toutes de ce prince débonnaire qui sait écouter, qui sait écarter d'une plaisanterie des sollicitations importunes, qui montre qu'il n'est pas dupe de ce qu'on lui dit ou qui sait attendre pour juger. Alors, voilà, je crois, ce qui compose véritablement ce portrait psychologique.
Aussi soin de porter son image. Vous avez évoqué dans un de vos ouvrages l'épisode du Grand Veneur. Ça, c'est aussi toute une construction.
Alors, il faut peut-être la raconter très rapidement. Alors, on est à l'été 1598. À l'été 1598, on devrait penser que tout se passe pour le mieux dans le royaume de France, puisque quelques mois plus tôt ont été conclus l'édit de Nantes et la paix de Vervins qui ont résolu les problèmes les plus brûlants et qui ont mis fin à 30 ans de guerre civile. La légitimité est établie, la paix est revenue dans le royaume, le commerce recommence. Or, en même temps, se font jour un très grand nombre de mécontentements, parce qu'effectivement, le rétablissement de l'État, ça veut dire aussi
les
rétablissement
impôts.
Des cours fiscaux réguliers, de problèmes de centralisation institutionnelle. Et puis, ce qui est plus grave, c'est que la légitimité de la succession est incertaine. Si Henri IV est marié avec Marguerite de France, Marguerite
il
de
Navarre. Il n'a pas d'héritier.
Il n'a pas d'héritier.
Et ils n'en auront
ce
pas.
Ce mariage est
stérile,
est totalement séparé. Que peut-il advenir en cas de maladie ou d'attentat contre la personne du roi ? Or, Henri IV, à ce moment-là, est prodigieusement épris de Gabrielle d'Estrées et il va effectivement, en février 1599, décider de l'épouser et de la faire reine. Ses conseillers savent, alors je reviens à l'été 98, ses conseillers sont tous arqués contre cette hypothèse qui s'avérerait catastrophique d'un point de vue
diplomatique
vis-à-vis du souverain pontife qui vient d'accorder à la fois la réconciliation de Henri IV la reconnaissance de l'édit de Nantes, qui sont chaque fois des pas très difficiles que le souverain pontife a accomplis dans l'intérêt du royaume de France. Si on lui impose maintenant d'accepter le mariage de bigamie, puisque le mariage avec Margot
n'était pas encore
annulé, il est évident qu'il y aura un conflit et que l'ensemble des cours et chancelleries étrangères vont se gausser de la France. Et puis, la maîtresse du roi est très impopulaire, comme toutes les maîtresses royales, dans la mesure où on suppose qu'elle dépense énormément d'argent. Alors, Henri IV est furieux et il chasse. Il est en forêt de Fontainebleau, il ne veut voir personne. Il chasse pendant 2 jours, il ne trouve pas de cerf d'ailleurs. Et puis, le 5 septembre 1598, on entend la sonnerie de la découverte du cerf. Il envoie 2 compagnons, le marquis de Laverdun et le comte de Soissons, pour reconnaître. Ils reviennent quelques instants plus tard et ils disent que dans les fourrés de la forêt de Fontainebleau, ils ont aperçu un homme noir qui leur a dit des mots qu'ils n'ont pas bien perçus. C'est ce personnage noir qui hante la forêt de Fontainebleau. C'est le grand veneur, le chasseur noir, un chasseur maudit qui apparaît à certains jours dans un vacarme, le vacarme du grand veneur. Il leur a dit « M'entendez-vous ?» Ce qui, dans le vacarme, est évidemment une bonne question. Ou bien « M'attendez-vous ?» Alors, c'est-à-dire qu'il aurait une mission pour arriver. Ou bien encore, troisième possibilité, il aurait dit « Ni m'entendez-vous, ni m'attendez-vous, mais amendez-vous. » Alors, amendez-vous, ça veut dire qu'il est envoyé pour... Le grand veneur pense que Henri IV doit répudier Gabriel d'Estrées. Voilà, le grand veneur se trouve être exactement de la même opinion que les ministres de Henri IV et que le pape. Et cette nouvelle est racontée à Paris, elle est imprimée dans l'histoire de France de Jacques-Auguste de Thoux. Il y a un chapitre sur l'histoire du grand veneur. Tout le monde connaît cette histoire, elle a été diffusée dans l'Europe entière, les correspondances diplomatiques l'ont rapportée. Et alors, il se trouve que le comte de Soissons, le marquis de Laverdun, l'un et l'autre étaient des amis de Henri IV, mais des amis un peu incertains dans la mesure où le comte de Soissons avait été amoureux de Catherine de Bourbon, la sœur de Henri IV, et qui lui avait refusé sa main.
Oui, pour des raisons diplomatiques aussi, j'imagine.
Voilà, alors...
Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais.
C'est le marquis de Laverdun, gouverneur du Maine, et quelques semaines auparavant, il avait rencontré dans la forêt du Mans une autre anomalie forestière, un personnage, un homme, un bûcheron, qui avait une corne au front qu'il a cachée sous un bonnet. Et ce malheureux avait une anomalie génétique et ce mystérieux bonhomme cornu de la forêt du Mans, on l'avait emmené à Paris où on le montrait dans les foires. On dit d'ailleurs qu'il est mort de mélancolie quelques mois plus tard. Mais enfin, lui aussi était un phénomène forestier. Alors que l'on tienne tous ces éléments, l'apparition de phénomènes forestiers fantastiques, deuxièmement, le marquis de Laverdun qui est témoin de l'un de ces événements et puis qui... lui est supposé être témoin du grand veneur. Est-ce que ce n'est pas lui qui aurait un peu arrangé l'arrivée du grand veneur? Voilà l'hypothèse, si vous voulez, que je formule. Ce grand veneur, donc, est une contradiction de la politique de Henri IV. Mais enfin, il est en même temps une contradiction respectueuse, parce que être favorisé d'une apparition fantastique d'un personnage de conte de fées,
ça idéalise encore.
C'est quelque chose qui n'arrive qu'au roi des fables, roi Arthur, ou bien alors des rois égarés dans la forêt, le roi de Hongrie, Mathias Corvin, Henri VIII, François Ier, des personnages qui sont entrés dans la légende. Alors, autrement dit, je crois que Henri IV n'était pas fâché de cette histoire du grand veneur et qu'il y a tout un tas d'autres anecdotes qui pourraient être reçues comme contredisant partiellement sa politique, mais qui en même temps sont un peu une manière de l'orchestrer, d'en montrer les différents aspects, oui. Et qui sont des anecdotes respectueuses, servant
et à la gloire
à sa légende. À sa légende.
Oui.
Il est très conscient, je le crois, de cette circulation d'anecdotes et d'historiettes.
Il était aussi, dit-on, très touché par son pouvoir de toucher les écuelles. Il était ému.
Oui,
ce pouvoir-là.
Là, je crois qu'on touche, là encore, les écrouelles, si on peut dire,
oui.
Mais et un point prodigieusement signifiant. Vous savez que les rois de France ont, depuis le Moyen-Âge, la capacité de guérir des écrouelles, des humeurs froides. Et c'est une maladie qui est supposée rare et incurable. Et après la cérémonie de son sacre, le roi de France acquiert cette capacité. C'est une preuve de sa légitimité, d'un don qui est hors nature et qui prouve qu'il est véritablement roi de France.
Car il en a bien besoin.
Parce que le roi d'Espagne, par exemple, pourrait toucher des scrofulos et ça ne le guérirait pas. Le roi de France les guérit. Alors, il y avait eu des légendes, et le roi d'Angleterre aussi. T'es capable, dit-on, de toucher les gens atteints du mal du roi, de l'épilepsie, pour l'empereur aussi, on l'a dit. Mais c'est dans le cas du roi de France que la coutume est la mieux établie. Et chaque année, et au long de l'année, ou chaque fête religieuse principale, le roi de France, Henri IV en l'occurrence, va toucher des dizaines ou des centaines de scrofuleux. Et Henri IV, qui après tout est venu au pouvoir d'une manière difficile.
Légitime après, mais difficile.
Légitime, mais il faut bien comprendre qu'il était cousin de Henri III au 21e degré.
Oui, ça remontait à Saint-Louis.
Au fils de Saint-Louis, à la fin donc du XIIIe siècle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas une parenté évidente. Qu'il était ensuite le chef d'un parti qui conduisait une guerre civile en France et que donc, 20 ans plus tôt, on n'aurait pas donné beaucoup de chance à sa capacité d'accéder au trône de France. Donc, lui-même est conscient de cette fragilité, enfin de la contestation qui peut s'opposer à lui. Et Dieu sait qu'il a été contesté, effectivement. Et donc, il y a un miracle pour les scrofulos, on peut dire, mais un miracle pour Henri IV lui-même, si vous voulez. Il est émerveillé, ému
du pouvoir
qu'on lui attribue ou que ces braves gens attendent de lui. Et il s'en émerveille et tout au long de... On a des témoignages directs de ses médecins qui le rapportent ses réflexions, son émotion.
Tout à l'heure, nous parlions de Saint-Louis. Je crois que le choix du prénom du futur Louis XIII n'est pas anodin. Parce que, en fait, le dernier roi de France qui s'appelait Louis, c'était Louis XII, qui est mort en 1515. Depuis, il n'y avait pas eu de ce prénom-là. Est-ce que c'est pour rappeler son ascendance, le grand-père Saint-Louis, qui était catholique, qui était son...
Oui, certainement, puisque le nom n'était plus dans la régularité, si on peut dire, des successions. Il y avait eu des François, des Henri, des Charles, et dans cette succession de rois, le prénom de Louis, qui avait circulé pendant plusieurs siècles, là, se trouvait interrompu. Je crois que le choix de ce prénom était mûrement réfléchi et participait, comme la cérémonie du toucher des scrofuleux, pas d'un retour, mais d'une affirmation, d'une confirmation de la légitimité essentielle, génétique, pluriséculaire, à laquelle prétend Henri IV.
Nous allons maintenant parler des complots et des conspirations, parce que tout à l'heure vous parliez du traité de Vervins et de l'édit de Nantes. La paix était revenue dans le royaume et pourtant, il a connu beaucoup de menaces, beaucoup de complots. Et alors, pourquoi ces complots? Qui arme ces conflits cachés? Parce qu'au départ, des complots, c'est caché. Et des complots dangereux, d'autant plus dangereux, on sait bien comment ça finit.
Oui, alors je crois qu'il faut distinguer des oppositions politiques ou fiscales à des mesures prises par le roi. La forme que prend cette opposition, qui peut effectivement avoir l'apparence de conjuration, de complot, de prise d'armes nobilières dans des provinces ou d'émeutes populaires sur des marchés.
Les croquants.
Et puis, les croquants en 1594-1595, mais aussi, par exemple, en 1602, les émeutes contre la pancarte, une première idée de Sully pour essayer de diminuer le poids des tailles, qui est l'impôt direct qui pèse sur les campagnards, c'est de faire payer les villes. Comme la plupart des villes étaient genre des taux, étaient soit totalement exemptes des tailles.
Il y avait des franchises.
Paris, Lyon, Bordeaux étaient exemptes des tailles. La plupart des grandes villes ne payaient rien, aucune taille. Elles payaient simplement des droits sur le commerce à l'entrée. Donc l'idée, c'est de regréver les taxes de circulation qui sont payées par les habitants des villes et par les riches. Alors que les tailles aient pesé sur les paysans, il n'y a pas lieu de, si on peut dire rétrospectivement, ce serait anachronique de s'en indigner. Il faut savoir que 90% de la population et de la fortune de la France était terrienne. Mais il est évident qu'il y a plus de fortune dans les villes. Alors comment faire payer les villes ? Sully, qui s'appelait encore Rony, deviendra Sully simplement en 1606, avait souhaité faire payer un droit de 5% sur les entrées dans les villes.
Un péage,
payé. Alors le tarif étant indiqué par une pancarte, d'où le terme sur la baraque où se tenaient les agents du fisc à l'entrée des portes de ville. Il y avait donc une pancarte, et d'où le terme de impôt de la pancarte. Or, il a suscité à Poitiers, à Limoges, à Bordeaux, dans la plupart des villes, des émeutes, c'est-à-dire qu'on a mis le feu aux baraques, on a chassé les agents, etc. Donc, en 1602, Sully a renoncé.
À la pancarte, il a renoncé à la pancarte.
Oui, tout à fait. Alors ensuite, il va trouver le système de la paulette, c'est-à-dire...
Oui, ça c'est pour la vénalité
payer,
des charges.
Oui, la vénalité des charges, oui. Enfin, l'idée c'est de faire payer les officiers titulaires de charges d'office, les propriétaires d'office...
Payer un impôt annuel.
Qui vont payer un impôt annuel qui leur assure l'hérédité de leurs charges. Et donc, ça va assurer effectivement une rentrée assez importante et ça frappe une élite sociale. Le défaut, mais on ne le connaîtra que beaucoup plus tard, c'est que ça revient à priver le gouvernement central du choix de ses agents, puisque ils deviennent uniquement vénaux. Tiennent de leur fortune et pas d'un choix de l'autorité. Alors, c'est une sorte de dépossession de l'État. Mais ça, si on peut dire, on ne le comprendra que 20 ou 20 ans plus tard environ.
Quand on mettra les intendants pour lutter contre cette
émancipation si on veut. Oui, les intendants, c'est déjà envisagé. Là, sous Henri IV, on a les premiers intendants permanents qui ne portent pas nécessairement le terme d'intendant, mais à Lyon... Et en Champagne, qui était la principale ville, enfin province ligueuse, pour rétablir le cours d'une administration liée au nouveau souverain Henri IV, on a envoyé des commissaires qui étaient des intendants permanents, qui sont restés à Lyon.
Qui représentaient l'État, c'est le début du jacobinisme.
Et à Châlons, voilà, mais de la centralisation, qui est typiquement française.
Bon alors,
j'arrivais, oui, je vous disais des oppositions, il y en a un très grand nombre. Alors, ensuite, des prises d'armes nobilières, parce que un très grand nombre de protestants sont inquiets de la pérennité des privilèges militaires, fiscaux, institutionnels qui leur ont été accordés. Et c'était Henri de Navarre qui était protecteur du parti protestant. Il est roi de France, il a abjuré, il est catholique. Et donc maintenant, le personnage qui fait l'effet de protecteur régulier, c'est le duc de Bouillon, qui possède des biens dans la vicomté de Turenne. Aujourd'hui, c'est la Corrèze à peu près. Et puis à la frontière donc de la Champagne et ce qui était la principauté de Liège dans les Ardennes. Et c'est les menées véritablement dangereuses, parce qu'elles sont subversives, militaires, du duc de Bouillon amènent Henri IV à intervenir deux fois en 1604 et 1605 pour écraser les partisans de Bouillon en Limousin et Quercy, et puis ensuite à Sedan en 1605 pour s'emparer de la place qui risquait de faire une sorte de sécession politique. Ensuite, il y a bien entendu un très grand nombre d'anciens ligueurs qui se sont exilés, qui n'ont pas participé des mesures d'amnistie, qui en ont été exclus ou qui ont préféré y échapper et qui se sont réfugiés alors soit dans les Pays-Bas catholiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique, en Franche-Comté, dans le Milanais, en Italie en général, mais enfin plutôt dans le Milanais et dans le royaume de Naples, lié à l'Espagne, et puis en Espagne même. Et ils sont plusieurs centaines. Et ce sont des gens qui sont de grande capacité, ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils sont ruinés, ils sont obligés de s'exiler avec leur famille. Mais enfin, ce sont des gens qui ont une capacité politique. Alors voilà, il y a tout un éventail de gens qui peuvent comploter et qui sont des dangers politiques réels et qui surviennent. Alors il y a eu les deux conspirations plus spectaculaires, celle de Biron, le maréchal de Biron qui était un compagnon
d'Henri IV,
qui avait été séduit par des offres de constitution d'une sorte de royaume de Bourgogne, dont il aurait pu assurer la constitution avec l'appui des Savoyards et puis des Espagnols à partir du Milanais. Donc il est décapité en juillet 1602. Ensuite, le comte d'Auvergne, qui est le frère de la marquise de Verneuil, duchesse d'Entragues, qui est...
une ancienne maîtresse
Pas ancienne, elle est en titre, si on peut dire, en fonction, et qui avait lui aussi des liens, on ne sait pas bien, avec des émissaires espagnols, et qui est arrêté, je crois que c'est en 1604. Donc il y a toute une virtualité. Vous voyez, opposition, complot, et ça ne veut pas dire que ces gens-là seraient allés jusqu'à l'assassinat du roi. Je ne pense pas qu'il faille confondre ça avec l'issue ultime de 1610. Et dans le cas, par exemple, de Ravaillac, on est à peu près certain, quand on lit les procès, puis ses interrogatoires, qu'il a agi seul,
oui.
Puisqu'il n'y a aucun complot. Il est porté, bien entendu, par un courant d'opinion important, enfin très minoritaire, mais important, et il y aurait eu des dizaines d'autres Ravaillac possibles. Mais il ne faut pas croire qu'il y ait eu une sorte de pieuvre ou de marionnettiste suprême qui tire les ficelles. Je vous dis, c'est surtout le fait que dans les pires tortures que le malheureux Ravaillac a subi, et le supplice qui a duré 3 heures, avec des intermèdes, on lui demandait de dénoncer ses complices.
Je crois d'ailleurs que c'était la seule chose qu'on lui demandait tout le temps.
Oui, on aurait pu arrêter, il en l'aurait mis à mort. Donc, il avait vraiment intérêt à arrêter son supplice. Eh bien, je crois que ça, c'est la preuve massive du caractère solitaire de l'entreprise de Ravaillac.
Que c'était un accident d'un solitaire.
Oui, je crois que, d'ailleurs, les attentats précédents, ceux de Barrière et de Châtel, étaient également des gens qui ont agi solitairement. C'est-à-dire qu'ils avaient pris des conseils, ils avaient été soit découragés, soit conseillés, mais il n'y avait pas de réseau autour d'eux, au bout du compte.
Ce n'était pas le résultat d'un complot.
Ce n'était pas le résultat.
Ce n'était pas l'aboutissement.
D'un courant d'opinion, ce n'est pas le résultat d'un complot. Non. Et puis, on a d'ailleurs, là encore, des sources très précises et des études, d'après les archives espagnoles et les archives belges, sur le comportement des ligueurs exilés et sur les agents de renseignement de l'Espagne, qui étaient très nombreux, et il n'y a rien qui puisse permettre
de penser qu'il y ait des liens.
Alors bien sûr, les conseillers au Parlement de Paris, et l'ensemble, l'immense majorité de l'opinion française, a pensé qu'il devait y avoir des liens, parce qu'on n'imaginait pas qu'un accident aussi épouvantable puisse être l'œuvre d'un individu isolé, totalement inconnu, et qu'un grand événement qui modifie le cours de l'histoire puisse être dû à une sorte de circonstance accidentelle d'un fanatique. C'est, je crois, là qu'un problème de psychologie historique, qui se pose d'ailleurs assez souvent, indépendamment d'ailleurs des circonstances-là de civilisation, c'est l'idée de rechercher une causalité humaine un peu complexe, un peu élevée, qui nous amène, si vous voulez, à l'énoncé des théories de complot, qui donnent toujours à celui qui croit à ces explications une sorte de brevet d'esprit subtil. Vous voyez, n'être pas dupe des apparences, de savoir démêler la main de cet ennemi invisible qui agit et qui complote. Vous voyez.
Alors qu'en fait, c'est
mais je crois,
souvent
enfin, on
beaucoup
peut
plus
pas,
simple que ça.
Avec ces éléments de psychologie historique, je crois, oui, qu'il y a aussi la possibilité du hasard.
Alors, vous évoquiez la franche impopularité du roi en 1609-1610, mais elle fut remplacée tout de suite, dès la nouvelle de sa mort, par une sincère et universelle émotion, même une déploration. Parce que tout fut oublié, les projets de guerre, les impôts, son épisode politico-sentimental avec la princesse de Condé, tout ça balayé, et on ne se souvient que des mérites historiques du roi. C'est-à-dire la refondation de la dynastie, le retour de la paix civile et la paix aux frontières. Et en fait, dans un de vos livres, Yves-Marie Berset, un livre qui s'appelle « Le roi caché », vous dites comment Henri IV accède à la légende du roi caché après sa mort. Qu'est-ce que c'est que le roi caché ?
Bien, c'est une idée qui est commune à beaucoup de royaumes, de civilisations, d'États, de nations, qui n'est pas propre simplement même à l'Europe occidentale. C'est l'idée qu'un personnage charismatique, un souverain qui a disparu dans des circonstances tragiques ou obscures, continue de veiller sur le destin de son pays, qui n'est pas réellement mort, qu'il s'est caché dans les abbayes, dans une grotte, et puis qui reviendra un jour quand son pays aura besoin de lui
pour le sauver. Aile protectrice, invisible.
Il est sa tutelle, Alors ça peut se comprendre d'une manière symbolique, comme on pourrait dire que par exemple Saint-Louis et Henri IV sont d'une sorte des patrons des rois de France et qu'ils ont inspiré leurs successeurs. On peut dire, je ne sais pas moi, qu'il y a chaque pays a une sorte de légendaire national, ce qu'on appelle une mémoire collective, qui choisit un certain nombre de personnages emblématiques qui veillent au fond, qui est composé ce destin et dont on se plaît à penser que leur esprit continue de survivre de quelque façon. Alors, dans la matérialité du roi caché, on va plus loin, c'est l'idée que, effectivement, le prince Dimitri, fils d'Ivan le Terrible,
en Russie,
n'est pas mort dans son jeune âge, mais qui va revenir pour rétablir l'unité de la Moscovie. Que le roi Sébastien de Portugal, dont on n'a pas trouvé le corps après la bataille de Ksar el-Kébir en 1578 dans le nord du Maroc, et en réalité s'est caché dans une île de l'Atlantique et qu'il va revenir pour sauver les Portugais de la conquête espagnole.
Mais alors Henri IV, lui, on savait qu'il était mort, on l'avait vu. Donc lui, on ne pouvait pas penser qu'il était caché dans ce sens-là.
Non.
Il était,
mais
c'est
roi devient un roi légendaire. Non, ce n'est pas un roi caché, effectivement.
Oui.
Mais c'est un roi immédiatement légendaire. Vous voyez, sa statue sur le pont Neuf est inaugurée en 1614. C'est assez proche, vous voyez.
Oui, mais sa femme était là pour le faire.
Oui,
alors
certes,
c'est mieux.
Non, mais enfin, je ne sais pas, encore aujourd'hui, dans les moyens contemporains, est-ce qu'on peut décider de faire une statue monumentale, belle en plus, en bronze, c'est un lieu choisi en 4 ans. Bon, il me semble que techniquement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et en tout cas, ce roi de bronze, au cœur du Pont Neuf, veille sur Paris, sur la France. Et immédiatement, les 12 années de règne pacifique de Henri IV vont faire figure d'âge d'or. C'est là qu'on peut dire que les impôts, les prises d'armes nobilières sont oubliées, les scandales des maîtresses, et qu'on ne retient que ce moment de réconciliation, puisque c'est effectivement 12 années qui ont succédé à 30 années de guerre civile. Il faut dire que la régence de Marie de Médicis, contrairement à ce qu'on a dit souvent, est prospère. Et c'est seulement en 1621 que vont reprendre le cycle des guerres de religion qui sont de 1621 à 1629 la rançon, si on peut dire, le fruit empoisonné
de l'édit de Nantes.
Des brevets de l'édit de Nantes, oui, parce qu'on avait constitué un État dans l'État, et cette force militaire et politique du protestantisme, tôt ou tard, allait se heurter au projet, justement, d'expansion du pouvoir central.
Bien sûr. Nous avons bien compris qu'Henri IV fait partie non seulement d'un patrimoine historique et folklorique parfois, mais surtout un patrimoine culturel. Merci Yves-Marie Bercé.
Bien, j'espère qu'on a pu essayer de faire passer cette image légendaire, mais d'un légendaire qui a été incarné pendant un certain temps et dont le roi charismatique avait souvent eu conscience.
Il en avait un grand souci. Merci.